Que Dieu nous bénisse ensemble. Frères et sœurs, je vous parle ce matin du fond de mon cœur, cette méditation qui m'a poursuivi toute la semaine, compagnon de Jésus-Christ. Je vais faire trois petites lectures, la première dans le psaume 68. Compagnon de Jésus-Christ. J'aime bien ce mot compagnon. Compagnon du Tour de France, du devoir, des compagnons. On travaille ensemble, on souffre ensemble. Le psaume 60. Ça va, on m'entend bien? Il n'y a pas de problème? Bon, là, comme ça. Psaume 68. Alors, on ne va pas lire tout le psaume, on va lire les versets à partir du verset 25. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. Là, c'est nous le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. C'est toute une tribu, une famille. Les chefs de Juda et leurs troupes, une autre famille. Les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. On a besoin de ça. On a besoin de voir l'Église ensemble. Nous voyons ta marche. Vous savez, on voit la marche de Dieu quand on voit l'Église marcher. On ne voit pas Dieu ici. Quand toute l'Église est en marche, sème, cède, s'épaule, je pense que là on voit quelque chose de Dieu qui se passe dans l'Église. Vous avez vu le psaume ? Une marche avec ordre. D'abord les jeunes filles, enfin, on ne va pas faire ça ici, mais d'abord les jeunes filles avec leur tambourin. Puis la famille de Benjamin, le petit dernier qui passe et qui suit le Seigneur. Et puis les chefs, les responsables, responsables des écoles du dimanche, les responsables de la librairie, des jeunes, des enfants, etc. Les chefs avec leur famille, leur troupe. Il y a de l'ordre, ça bouge. Et c'est pourquoi le psaume dit « Nous voyons ta marche, ô Dieu ». J'aimerais que en entrant dans ce lieu, des gens disent « Nous voyons que Dieu marche au milieu de vous. » Amen. Ils sont tous présents dans le temple. On pouvait mettre 30 000 personnes dans le temple. Ce n'était pas une petite église de quartier. 30 000. Et tout le monde est présent, tous les représentants des familles. Imaginez que dans les apôtres, par exemple, il en manque toujours deux ou trois au culte. Un jour, il y a quelqu'un qui a manqué le culte. C'est noté dans la Bible pour l'éternité. Thomas, il n'était pas là. Il était absent. Il a dû dormir. Il s'est endormi ce matin-là. Bien, c'est noté dans la Bible. S'il fallait noter tous les absents du culte, la Bible serait grande, immense. Frères et sœurs, ne manquons pas l'appel, le rassemblement, ne manquons pas le culte. Parce que notre présence apporte la présence de Jésus. Écoutez-moi bien. Notre présence ensemble, avec ordre et joie, apporte la présence de Jésus. Nous sommes tous des compagnons. Nous sommes tous là, fidèles à notre amitié, fidèles à notre passé avec les uns et les autres, fidèles au service des autres, au service de l'Église. Quand on voyait Jésus, on voyait les douze avec lui. Quand on voyait les douze, on voyait Jésus. C'était inséparable. Nous devons augmenter notre communion ensemble. Un jour, Jésus est monté dans une barque et les 12 ont suivi, évidemment. On ne pouvait pas se passer de Jésus. Je ne peux pas me passer de Jésus. Et vous ? Souvent, je demande aux baptisés, quelques jours avant leur baptême, je leur demande, pourriez-vous vivre sans Jésus ? Et tous me disent, oh, oh non ! J'espère que ça tient toujours. Je vous repose la question, pouvez-vous vivre sans Jésus ? Il y a eu 5 non. Oui ? Non. Alors les apôtres sont allés dans la barque avec Jésus. Là, dans la barque, ça n'a pas empêché qu'il y ait eu la tempête. Être ensemble, ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera pas de bosse, de panique, de crise. Être ensemble avec Jésus n'est pas une garantie que la vie se fera comme un long fleuve tranquille. Mais il y avait deux forces avec les apôtres dans la barque. D'abord, ils étaient ensemble, c'est une force, ensemble pour naviguer. Écoper l'eau. Écoper, ça veut dire vider la barque parce que l'eau rentrait dans la barque. Des vagues se jetaient dans la barque. Elle était pleine d'eau. Alors on vidait, on vidait, on vidait, on vidait. Ils étaient ensemble. Quand on est tout seul, on est débordé, dépassé, on ne sait plus quoi faire. Mais ensemble, chacun pouvait prendre une louche et vider la barque. Puis ensemble, je crois qu'on est mieux quand on a peur d'être ensemble. On apprend à prier, on apprend à crier, on apprend à espérer. Ensemble, on s'encourage. Et puis, deuxième force dans la barque, il y avait Jésus. Et avec Jésus, on apprend la confiance. Il dort, il ne bouge pas, il doit bien rêver. Puis nous, on est là. Seigneur, tu ne t'inquiètes pas. Il dort, il nous apprend, il nous dit à travers son beau sommeil, qui me fait vraiment plaisir, ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous dans tous les temps de votre vie. Alors il nous apprend à écouter, à parler, à regarder. Être ensemble, compagnons d'œuvre, compagnons de route. Mais si on n'est pas ensemble, comment voulez-vous porter les fardeaux des autres ? Nous avons eu des épreuves cet été, nous avons eu Odile. Mais comment pourrions-nous porter Odile si nous ne venons qu'au culte que deux fois par an? On ne saurait même pas qui est Odile et qu'est-ce qui s'est passé. On a besoin d'être ensemble pour s'accueillir et porter les fardeaux des autres, être au courant. La Bible dit, ainsi nous accomplissons la loi du Christ. Que veut le Christ? Qu'on se porte, qu'on se supporte, qu'on porte les fardeaux des autres. Ainsi, on est chrétien. Alors c'est beau dans le temple. Moi j'aime bien cette entrée dans le temple avec les tambourins des jeunes filles et puis la tribu de Benjamin, etc. J'aime bien. C'était tellement beau cette marche. La suite du psaume dit « L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers toi, vers Dieu. » Quand on marche ensemble, je pense que des gens peuvent alors venir. Je pense que Dieu enverra ses enfants dans notre Église si on marche vraiment ensemble. Ils marchent ensemble et la suite dit, je le répète, l'Éthiopie accourt. Qu'est-ce qui les a appelés ? Ben c'est Dieu. Elle accourt, les mains tendues vers Dieu. Pour marcher ensemble, il faut que nous nous débarrassions des servitudes, des esclavages. Je voudrais lire un autre texte. Dans l'Épître aux Galates, pour être des compagnons, il ne faut pas être trop chargé, il ne faut pas penser qu'à soi, hein, penser aux autres. Alors, Galates, après les Romains et les Corinthiens, Galates chapitre 5, écoutez bien ce texte de l'Écriture qui est beau. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. vous avez été libérés, faites attention, ne vous laissez pas aller vers un nouvel esclavage par la peur, par les idées des autres, par les menaces, par toutes les craintes que vous allez vivre dans votre vie. Ne soyez pas esclaves de personne, de rien. Vous êtes appelés à vivre la liberté dans la joie. Vous savez que le Seigneur a dit, en nous donnant les 10 commandements, il a dit en tête, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, vous connaissez, qui t'a fait sortir de la maison de servitude de l'Égypte. » Et pour ne pas que le peuple d'Israël retourne dans la servitude, le Seigneur lui a donné les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est simplement pour que Israël ne fasse pas marche arrière. Parce que quel esclavage a bloqué les enfants d'Israël 300 ans, plus de 300 ans en Égypte. Ce n'est pas que les briques qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas que le fouet de Pharaon. Ce qui a bloqué les enfants d'Israël en Égypte, eh bien, c'est le mensonge, c'est le faux témoignage, c'est l'adultère, c'est le vol, c'est les fausses idées sur Dieu, c'est tuer son frère avec sa langue, avec ses mains, je ne sais pas. Et le Seigneur dit, ne retournez pas dans cet enfer-là, dans cet esclavage. Tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne déroberas pas. Il nous donne les commandements pour nous sortir de la servitude. Ne retombez pas dans des servitudes. Les portables et les écrans sont une servitude aujourd'hui. La télévision est une servitude. Manger trop, boire trop, fréquentation dans le monde très fréquente peuvent être une servitude. Le sport peut être une servitude. Beaucoup de choses bien et justes peuvent être une servitude si on en oublie l'essentiel. C'est moi qui fais ce bruit-là ? Non ? C'est moi ? Ou c'est le vent ? Ah, c'est le vent. Alors, je fais avec vous une troisième lecture. Donc, on entre, on marche, on se libère de nos fardeaux, de nos servitudes. C'est moi ou c'est pas moi ? Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Alors, on va lire ensemble Hébreux 3, verset 13. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13. On arrive à ce que je vais vous dire rapidement, c'est-à-dire les compagnons. Les compagnons qui ont déchargé leur fardeau au pied de la croix, comme dit le voyage du pèlerin, et qui encouragent les autres. Et qui marche avec eux. Et on va s'encourager. Amen. Hébreux 3, verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Encouragez-vous comme des compagnons aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Participants du Christ, ça veut dire on participe. On s'occupe des choses et des intérêts de Jésus. On s'occupe de ce qui fait la préoccupation de Jésus aujourd'hui. On s'y intéresse. On porte ce que nous pouvons porter. On participe. Participer, ça veut dire, en fait, être compagnon. On est des compagnons de Jésus comme les apôtres. On est des amis de Jésus. On fait quelque chose. On n'est pas passif, présent, absent le reste du temps. Chaque jour, on fait quelque chose avec Dieu. Abraham, c'était un homme de foi, le plus grand homme de foi qu'on ait connu. C'est le père des croyants. Mais son nom magnifique, c'est ami de Dieu. Il était surtout un ami, un participant, un compagnon de Dieu, ami de Dieu. Comme Moïse. Quand Dieu parle de Moïse, il dit toujours « Moïse, mon serviteur ». Mais Moïse avait une qualité plus grande que d'être serviteur. Dieu lui parlait comme un ami, un compagnon. Dieu partageait avec lui des secrets, l'avenir, des projets. Comment se fait-il que Dieu accepte d'être aussi faible en partageant des secrets extraordinaires avec nous qui sommes des humains pécheurs illimités? Comment se fait-il que Dieu ait autant de considération pour nous? C'est par amour. Et puis Jésus avait aussi des compagnons avec lesquels il expliquait tout. Parfois dans la barque, je pense, le soir, ils allaient certainement sur le lac. Et là, Jésus répétait ce qu'il avait dit à la foule et il expliquait. Et les apôtres devaient poser des questions. Ils étaient des compagnons. Une des plus belles paroles pour compagnons, c'est « Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Parce qu'un compagnon, ça ne lâche jamais la main de son ami. Un compagnon, ça répond présent. Et quand Jésus a été en opposition, maltraité, il a failli mourir plusieurs fois, eh bien les apôtres étaient là. Vous avez persévéré dans mes épreuves. Mais un compagnon, ce n'est pas que ça. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique. Ils ont été là dans les bons moments, ils ont été là dans les moments difficiles. Nous sommes, nous aujourd'hui, des compagnons de Jésus-Christ dans nos souffrances et dans ses souffrances parce qu'il est rejeté aujourd'hui, il est méprisé, il n'est pas écouté, il n'est pas considéré et il attend l'humanité. Et nous sommes à ses côtés et nous sommes compagnons de ses souffrances. Compagnons dans l'œuvre, nous participons à ce qu'il fait, il évangélise le monde, c'est le grand semeur Jésus. C'est le grand laboureur, Jésus. Et nous, on est avec lui. On est compagnons dans notre vie, dans sa vie. Nous sommes compagnons dans la gloire à venir. Nous vivons avec lui quelque chose. Chaque jour, on ne pense pas à la technologie, on ne pense pas à la télé, aux films, au sport. Chaque jour, on se dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse dans cette visite, dans ce travail, dans ce déplacement? Dans cette rencontre, on vit, tout ce qu'on vit, c'est avec le Seigneur. Et l'Église tout entière est compagne du Seigneur, épouse du Seigneur. L'Église, ce n'est pas une organisation froide, militaire, autoritaire, déboussolée. L'Église, elle a de l'ordre, une présence en elle. La Bible dit que Jésus a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. C'est sa compagne, c'est son épouse, c'est son cœur. Tout le reste est passager, c'est l'essentiel. Je crois que là, on est dans l'essentiel. Vous êtes des compagnons de Jésus. Et nous sommes tous compagnons les uns les autres. On peut compter sur les autres, on peut compter sur chacun. Mais impossible d'être compagnon si nous sommes encore dans la servitude du péché, si dans notre tête circule de la pornographie, du péché, du mensonge, du vol, on est encore en Égypte et par conséquent on ne peut pas être compagnon de Jésus, aider Jésus avec des mains sales, un esprit sale. Celui qui lâche la main de Jésus, eh bien il ne tient rien dans ses mains. Ce qu'il fait ne tient pas. Il ne tient même pas la main de ses compagnons. Il lâche tout. Rien ne tient avec lui parce qu'il a lâché la main de la source de vie. Le but suprême de notre existence, frères et sœurs, c'est que nous soyons des compagnons du Fils de Dieu. C'est notre appel. Jésus disait au brigand sur la croix, l'essentiel, c'est ça l'essentiel, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras mon compagnon dans le paradis. Je crois que la Bible pourrait se résumer en un seul mot, relation. Le but de notre salut, c'est qu'on soit en relation avec le Christ. Voilà, c'est le but de notre salut. Il a créé toutes choses pour le Dieu a créé toutes choses pour le Christ. Nous sommes créés pour le Christ, pour vivre chaque jour, penser à lui la nuit, quand nous allons bien, quand nous allons mal. On pense, on vit, on parle avec Jésus. Et quand Dieu a envoyé Abraham, il avait déjà prévu avec Abraham le Christ. Quand il envoie Moïse, il a prévu le Christ. Quand il envoie les apôtres, il prévoit le Christ. Pour lui, pour Dieu, l'essentiel, c'est qu'on soit avec le Christ. D'ailleurs, notre bénédiction, c'est qu'on prie avec le Christ. C'est qu'on vive avec le Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous vivez avec moi et Dieu vous donnera toutes choses. L'essentiel, c'est que nous soyons avec le Christ. Regardez dans la Bible comment les choses les plus petites sont importantes quand elles sont faites pour le Christ, comme un des compagnons du Christ. Ce verre d'eau froide que vous donnez en mon nom ne sera jamais perdu. C'est des petites choses qui deviennent très importantes. Et quand Jésus nous dira, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. C'est rien, un peu de pain. Mais parce que c'est pour moi, parce que c'est dans ma communion avec moi, tout ça, ça a de l'importance. Et cela ne sera jamais perdu dans l'éternité. C'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous êtes réunis en mon nom, autour de Jésus, pour Jésus, Jésus dit, je suis au milieu de vous. Tout tourne autour de notre relation avec Jésus. Ça va bien? Vous êtes heureux ou malheureux? Quand même, je ne peux pas vous donner plus. Ah, on peut se poser une question quand même, quelle place avons-nous pour Jésus? Voilà. Puisque tout dépend de notre communion, relation, notre conversation, notre union avec Jésus. Quelle place réservons-nous à Jésus? Quel temps donnons-nous à Jésus? Et avec quel cœur? Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec un mauvais caractère? Mais quand c'est pour Jésus, Jésus, devant lui, nous sommes transparents, plus transparents que les poissons au fond de l'océan. Avec quel cœur je travaille pour Jésus? Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Tout dépend de notre relation avec Jésus. C'est une responsabilité. J'ai la responsabilité de me tenir avec Jésus, de porter ses valises, de prier avec lui, d'ouvrir la marche avec lui, comme Benjamin, les jeunes filles au tambourin, on marche avec lui. C'est ma responsabilité jusqu'à la fin de mes jours. Je vis avec Jésus. Soyons prudents et sérieux. Israël a marché avec Jésus, avec Dieu après l'Égypte. Et Israël s'est endurci. Et Israël, qui est sorti d'Égypte, a été écarté par Dieu. Attention. La Bible dit, retenons toutes ces choses pourvu que nous restions fidèles au Seigneur. Dieu peut nous mettre de côté. Il a mis de côté tout un peuple, Israël. Et il peut continuer avec d'autres, les enfants de l'Égypte, là, les enfants qui sont sortis d'Égypte. Bien, c'est avec eux que Dieu va reprendre le flambeau. Ce qui veut dire, je dois faire attention, Dieu peut m'écarter, Dieu peut nous écarter et faire quelque chose avec d'autres. Mais aujourd'hui, il nous dit, venez à moi, je vais travailler avec vous. Nous allons bâtir ensemble. Le Seigneur éprouve ses compagnons. Il met ses compagnons à l'épreuve parce qu'il veut voir si nous sommes vraiment des vrais compagnons. Il y a des compagnons qui sont là que pour demander. Il faut que ça rapporte. On espère qu'on recevra quelque chose. Et le Seigneur nous éprouve pour voir si on l'aime alors que tout contrarie nos plans, nos projets, mais qu'on l'aime et qu'on le suit, même quand finalement tout est en désordre à cause de Jésus. Les choses ne se passent pas bien, on a des difficultés. Dans la Bible, plusieurs de ses disciples se sont retirés. Et Jésus a dit à ses apôtres, « Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez partir aussi, hein ? » Oh, oh là là. Vous pouvez partir aussi ? Vous voulez y aller ? Allez-y. Frères et sœurs, nous sommes éprouvés par Jésus sur notre relation de compagnon. Il m'a éprouvé. Je l'ai vu après. Il faut parfois s'arrêter et regarder sa vie passée et regarder dans quelle occasion j'ai raté, j'ai réussi, j'ai mal choisi. Il faut regarder son passé pour mieux préparer l'avenir. Et les compagnons, vous savez, ils sont aussi criblés par le diable, éprouvés par l'adversaire. Jésus disait, vous serez haïs de tout le monde à cause de moi, à cause de moi. Et prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il faut que je me souvienne avec vous ce matin que Dieu veut qu'on soit tous des intimes, pas des potiches qui sont là comme des ballots au culte, puis qui s'en vont, puis qui pensent à autre chose, et puis la vie continue, la vie les reprend. Dieu veut qu'on soit des intimes dans ses projets. Le monde est au bord de la guerre. Il veut qu'on soit des intimes parce qu'il a des choses à nous dire. Il prépare l'Église pour les temps difficiles. Il fait quelque chose et nous, on n'est pas endormis, on est des compagnons. Que fais-tu, Seigneur, avec moi ? Que dois-je rectifier dans ma vie ? Que dois-je enlever de ma vie ? Qui dois-je enlever de ma vie ? Il veut qu'on soit des intimes aussi dans la souffrance, dans la discipline et dans sa résurrection et dans sa gloire céleste. Il veut qu'on soit des témoins de ce qu'il est. Il veut que je le regarde toute l'éternité. Et toute l'éternité, je vais apprendre de lui quelque chose qui ne sera jamais lassant, fatigant, quelque chose de nouveau. Je crée toujours toute chose nouvelle, nouvelle. Comme la source qui est toujours nouvelle. Jésus nous apprend à vivre aujourd'hui en compagnon. Il nous apprend aussi à bien voir les choses. Au commencement des Actes des Apôtres, il est dit, Jésus continue à faire et à enseigner ce qu'il a commencé depuis le commencement. Mais moi, je vais vous dire, je regarde Jésus, je pense à lui et je prie tous les jours et la nuit. Et quand je regarde ce qu'il fait, parfois des gens ont prié pour moi et m'ont dit, on prie pour que vous puissiez ressusciter les morts. Alors je vais dire oui et non, parce que je regarde Jésus, je vois bien, je suis son compagnon, j'apprends un petit peu, je ressens ce qu'il ressent, j'essaie d'être tout près de lui, mais vous avez raison. Mais il ne s'agit pas seulement de déterrer les morts, mais il s'agit de faire passer les gens de la mort à la vie. C'est ça la plus belle résurrection, c'est que des gens se convertissent. Parfois, des gens m'ont dit, on prie pour que les aveugles soient guéris. Oui, mais je crois que moi, je voudrais surtout que les aveugles spirituels soient guéris. Et je crois que chaque jour, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Mais les compagnons, ce ne sont pas des gens affamés de spectacle. Ils sont affamés de voir la gloire de Dieu dans la vie des gens, durablement. Les miracles de l'Évangile, c'était aussi des illustrations de ce que ferait Jésus dans le monde. Vous ferez des miracles plus grands parce que je vais au Père. Mais les miracles plus grands, ce n'est pas de guérir 50 aveugles, c'est d'ouvrir les yeux de l'humanité sur la beauté de Jésus, parce que la vie, c'est voir Jésus. Le paralysé qui descend du toit, c'est magnifique. Mais je crois que ce que nous avons à tous à demander, Seigneur, que nous soyons jamais paralysés et que les gens qui sont dans une servitude se lèvent et suivent le Seigneur. Amen. Sommes compagnons de Jésus. On voit ce qu'il fait. Et je veux tenir ferme. Le vent souffle très fort aujourd'hui, pas en Bretagne, mais il souffle très fort sur l'Église. Et je veux tenir ferme. C'est ma vocation. Être avec Jésus. Il me confiera à des choses et à vous. Il vous conduira et gardera vos enfants. Il sera là parce que vous êtes des confidents, des intimes. Vous êtes penchés sur son sein comme l'apôtre Jean le jour de la mort de Jésus. Vous êtes là à côté et vous mangez et vous dormez avec lui. Vous vous confiez, vous lui dites vos soucis, vous déchargez. Vous lui parlez à temps, à contre-temps, toujours, et vous n'arrêtez pas de lui parler, et Jésus vous écoute. Seigneur, tu sais quand je me lève, tu sais que je pense à toi. Tu sais quand je m'assieds, je pense à toi. Tu sais quand je me couche, parce que je pense à toi. Seigneur, ta main est sur moi, c'est une science magnifique. Je pense à toi, je te prie chaque jour, chaque instant. On essaie de vivre le commandement, prier sans cesse. Nous sommes intimes compagnons de Jésus. Amen. Amen. Vous allez voir de belles choses. Ça ne va pas tarder. Vous ne dites pas amen ? Parce que si on est des intimes de Jésus, vous allez voir les aveugles guérir, aveugles de cœur, et les paralysés marcher, ceux qui sont dans la servitude du péché. Que Dieu déjà bénisse au milieu de nous tous ceux qui sont dans la servitude d'un péché et ceux qui sont aveugles. Que Dieu les bénisse. Seigneur, guéris-les aujourd'hui. Seigneur, ouvre leurs yeux. Délivre-les de ce fardeau, cet esclavage, cette servitude intérieure, mentale, de péché. Seigneur, que nos yeux soient purs, que nos mains soient pures, que nos esprits soient purs. Seigneur, nous voulons être tes compagnons. Prions. Seigneur, garde-nous dans cette proximité, garde-nous proche de toi. Nous ne voulons pas lâcher ta main, ce serait lâcher la main de la vie, de l'Église, de tout. Nous voulons rester avec toi parce que nous avons connu, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quel autre irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes nés pour toi. Nous avons été créés dans le sein de notre mère pour toi. Nous nous sommes convertis pour toi. Nous sommes venus ce matin pour toi. Nous allons passer cette semaine, quelle qu'elle soit, pour toi. Nous allons vivre pour toi. Et si nous, quand nous mourrons encore pour toi, pour être plus proche de toi. Garde-nous dans l'intelligence, garde-nous sages, nous voulons nous donner pour toi, Seigneur. Amen.